le retour de vacances et c'était super bien passé. J'avais eu une ou deux chroniques où vraiment sans plantage.
C'est moi qui porte malheur, hein. C'est l'animation de cette émission. Et voilà. Désolé.
Mais on veut bien la recette des lasagnes.
Ok, ouais, d'accord.
La recette des lasagnes.
C'est sur le site de la petite Okara, qui est une personne géniale. Et vraiment, n'hésitez pas à aller voir. Ça demande un peu de préparation, certains produits, mais c'est génial. C'est génial.
Voilà. Ok.
Et le graphisme est vraiment au top.
Donc, c'est un peu cauchemar en régie, là, en train de se passer.
D'accord.
La machine est en train de repartir. D'accord.
Ok.
Comment il va? Voilà. T'as fait quoi cette semaine?
Franchement, zéro galère pour t'aider. Zéro galère.
Franchement.
Si tu veux.
T'es pas arrivé de truc de ouf.
Non,
t'as pas sauvé une mamie de la noyade.
Rien spécial. Putain, okay. Non, après on peut parler de mon salaire encore.
mais je crois que tu gagnes de l'oseille grâce à YouTube.
YouTube non, mais
Twitch ouais.
40 euros.
Moi, dis-nous clair. Tout à l'heure, en t'écoutant parler aussi de ton rapport ou ton non-rapport à la politique, et après en t'écoutant aussi sur le fait que tu parles de santé mentale dans ton spectacle que finalement, quand il t'est arrivé de faire cette blague un peu ratée.
Non, mais attends, j'en ai pas fait qu'une, hein. J'en ai fait des milliards, hein, des blagues ratées.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu te confrontes bien à quelque chose qui est de l'ordre de la politique quand tu fais ça, pas au sens institutionnel, les élections, tout ça. Mais ce dont tu parles quand tu fais ça, c'est aussi des choses qui sont hyper politiques, non ?
J'arrive pas à savoir ce qui est politique ou pas, mais sans déconner, hein, je suis très bébé là-dedans. Je crois avoir compris que de ne pas avoir d'opinion politique, c'est se baigner dans la pensée de droite.
Oui.
Oh waouh.
Waouh.
Je crois.
Non, mais pas. Alors pas.
La régie est prête, hein, si jamais. Hein.
je crois avoir compris ça. Je crois. Mais après, si je devais être un peu politique, ça serait plus en disant, soyons un peu gentils. Mais ça, est-ce que c'est politique ou
non, c'est de gauche.
Ça, c'est de gauche.
Donc c'est politique compliqué. Et c'est de gauche, donc.
C'est hyper compliqué. Mais je suis ça de très très loin. Par exemple, moi, j'ai cru comprendre que la gauche était morte, mais c'est de loin, tu vois.
On en parlera tout à l'heure.
Puisque les amis, sous vos applaudissements, c'est l'heure du PowerPoint de Vincent.
Ouais. Merci.
Comment il va celui-ci?
Ça va très bien. J'ai mangé des lasagnes vegan il n'y a pas longtemps. C'était excellent. Je peux vous partager la recette. Voilà.
Merci beaucoup.
Allez. Effectivement, donc là, je reviens du futur, d'un futur potentiel, puisque cette semaine, j'ai passé beaucoup de temps à explorer un certain nombre de vidéos, de contenus en ligne, puisqu'il y a eu un énorme événement. Et pour vous faire comprendre un petit peu de quoi je parle, j'ai fait une petite sélection très rapide.
Et on regarde ça en image. Complètement con, les mecs.
Le choix de la musique est super.
Ouais, légendaire.
C'est pour les droits. C'est pour pas me faire strike. Là, je le précise, là, juste là.
T'as l'air tellement intelligent avec.
Ah oui.
Ah oui, j'ai vu ça.
Wow.
J'ai aimé que tout de suite, ça soit une vidéo de cul.
Non, désolé, poulpe. Waouh. Hey, tu peux yèche comme un stomp.
Oui, vous pouvez faire vos besoins sur la Lune.
Voilà.
Avec,
ouais.
Évidemment, donc, cette semaine, je vais vous parler de l'Apple Vision Pro. Je vais essayer de le dire dans le bon ordre, j'arrête pas de confondre les mots. Donc, c'est un casque de réalité mixte. Enfin, ça mélange un peu pas mal de choses. On parle d'informatique spatiale, même de spatial computing en anglais. Donc, c'est un casque qui promet, enfin, qui prétend vouloir révolutionner notre façon d'interagir avec le virtuel au sein du réel. Et comme c'est un produit Apple qui coûte cher, que les casques de réalité augmentée et virtuelle peinent à convaincre jusque-là, forcément, ça ricane pas mal sur les réseaux sociaux, notamment devant des vidéos comme vous venez de le voir. Et c'était tellement prévisible, en fait, ça, qu'on a une réaction, on a eu droit à ces fameux papiers qui disent... Les Simpsons l'avaient prédit. Ils l'avaient prédit. Ça, j'adore à chaque fois, vraiment. En vrai, non. Je déteste ça. Les médias, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Surtout que c'est pas vraiment une vraie prédiction des Simpsons, etc. Je vous jure que le monde se portera un peu mieux quand les JO seront finis, déjà. Et quand on arrêtera de faire ce genre de papier. Donc, première chose. Ensuite, je me suis quand même posé une question. Je me suis dit, est-ce que ces personnes dont on se moque un petit peu aujourd'hui, c'est des simples fans d'Elon Musk, voilà, des privilégiés dont on peut légitimement se moquer, ou est-ce que c'est un peu des avant-gardistes, en fait, qui nous, bah, nous viennent de futur et nous offrent un avenir potentiel? Et donc, ma question ce soir, c'est... Ah oui, à chaque fois, j'oublie d'enlever l'animation. Bref, est-ce qu'on devrait vraiment se moquer des utilisateurs d'Apple Vision Pro? Alors, je vais commencer par une question pour tenter de répondre. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des AirPods ou des écouteurs sans fil?
Oui.
Voilà,
oui.
Voilà,
globalement. Et je peux pas m'en passer en plus. Hein,
voilà, t'as des AirPods, toi?
AirPods Pro.
AirPods Pro, voilà.
Ah, bon. Et moi, je trouve que ça réchauffe l'hiver en plus, personnellement. Mais...
Ça une zone très spécifique en tout cas.
Non, d'accord. Mais t'as moins l'air froid qui.
Ok, je comprends. En tout cas, ces écouteurs, ils ont totalement intégré nos usages à tel point qu'il y a même. Y a plus en plus de téléphones qui n'ont plus de prise jack. Et il faut vous rappeler qu'à leur arrivée en 2016, tout le monde se foutait de la gueule des AirPods. Hein. Vraiment, il y avait plein de mèmes. Et moi, le premier, pour moi, c'était un peu les écouteurs des traders. Entre guillemets, sur Instagram, qui vendait des pyramides de Ponzi à des utilisateurs. Enfin, des trucs comme ça, complètement fumeux. C'était vraiment les écouteurs de ces personnes-là pour moi. Aujourd'hui, j'ai des écouteurs sans fil et je suis pas le seul. Même le Guardian y voit désormais un peu l'objet totem des millennials. Alors, oui, un AirPod, c'est pas comparable à un Apple Vision Pro en termes d'innovation et de chamboulement technologique, mais l'histoire d'Apple et de la tech en général est marquée par ce type de réaction au premier abord. L'iPhone, typiquement, c'est un excellent exemple. On retient la présentation de Steve Jobs, évidemment, mais on a oublié qu'une partie de la presse et même des industriels tenaient un discours assez similaire à celui qui est tenu aujourd'hui pour le casque d'Apple. Alors, croyez pas que je suis là pour défendre Apple. Hein. Je sais que mon outil de travail, moi, la plaide pas en ma faveur, mais j'ai pas non plus oublié ce qu'on peut reprocher à l'entreprise, notamment leur façon de gérer les travailleurs dans les usines en Chine ou dans les mines en RDC. Et puis, ce genre de discours concerne de toute façon les innovations technologiques en général. J'ai un petit peu fouillé et sur les ordinateurs personnels, lorsqu'ils ont envoyé les foyers américains, on parlait dans les années 80 d'ordinateurophobie. Hein, je l'ai traduit un peu comme ça. Et le New York Times, il écrivait même en 85 à propos des ordinateurs portables, les gens ne veulent pas se trimballer avec un ordinateur avec eux à la plage ou dans le train et passer des heures dessus alors qu'ils préféraient lire les sections sport ou business de leur journal papier. D'une façon ou d'une autre, l'industrie des micro-ordinateurs a cru que tout le monde aimerait voir un clavier greffé en guise d'extension de leurs doigts, alors que ce n'est pas le cas. Un article qui a donc très bien vieilli. Bref, vous voyez où je veux en venir, en fait, à un instant T, l'avis qu'on a sur une innovation, notamment dans le monde de la tech, finit bien souvent par évoluer. Et l'Apple Vision Pro montre un début de virage dans le domaine, souvent moqué des casques de réalité mixte. Après, je vous parle de la presse, des médias, des journalistes qui couvrent ces innovations depuis des décennies. Mais entre l'Apple Watch il y a 10 ans et l'Apple Vision Pro aujourd'hui, il y a un nouveau groupe qui a émergé et qui va participer à la normalisation de ce type d'objet, c'est évidemment... les influenceurs, les créateurs de contenu, à chaque fois qu'il y a un nouveau produit, que ça soit des spécialisés en tech ou pas, ils s'emballent, ils participent même gratuitement à la com d'Apple. Hein. Apple, ils ont juste à les inviter, à leur faire tester l'objet ou eux, ils l'achètent même directement.
Et ils ont des « wow, amazing ».
Voilà, typiquement, Kazinestat, il dit « voilà, c'est la plus grande, plus bel objet de tech que j'ai jamais utilisé ».
C'est intéressant, sa vidéo. Encore.
Sa vidéo était très intéressante parce qu'il montrait les limites. Ouais. Mais en même temps, je pense que, en fait... le fait qu'on a un rapport différent à eux, qu'on se sente beaucoup plus proche, qu'on écoute beaucoup plus leurs paroles, ça change un petit peu le discours. Kazinestat, par exemple, il va toucher beaucoup plus de monde avec sa vidéo de 10 minutes que Nilay Patel et sa critique pourtant super intéressante dans le magazine The Verge. Et au-delà même du discours, ce qui est intéressant avec les influenceurs, c'est ce qui m'a marqué, c'est leur façon en fait de parler de l'objet. Et on a une vidéo.
Jumping into a new technology, seeing what they can do with it, and theoretically... could also have a gigantic effect down the road on humans.
As a geek, that was the thing I've been looking for forever. And they did it right here on a product that has like, a product that is so new. This has been out for 12 hours and I felt it. So I don't know that I recommend you should buy one of these at $4,000 because I can promise you this, this will be the worst Vision Pro Apple ever ships. It is going to get so much better.
C'est super intéressant parce que je trouve, en fait, plutôt que de parler de la technologie d'aujourd'hui, il parle de celle de demain. Il se projette, il y a un affect, on parle d'impact sur les humains, etc. Et en fait, je me dis que entre ce genre de discours-là, le fait que Apple va continuer à peaufiner ses versions avec des modèles un peu plus abordables, d'autres qui le seront encore moins, comme Apple sait très bien le faire, et ben peut-être qu'on finira par garder dans le rétro de notre Apple Pro Vision et on se dira on est devenu peut-être la personne dont on rigolait aujourd'hui. Alors après, la posture des influenceurs, elle est intéressante parce qu'elle nous prend par les sentiments et sur des enjeux donc humains et sociétaux. Mais en fait, je trouve qu'en moi, je dirais que si on veut vraiment questionner ça au-delà de la tech, etc., et questionner des usages, on devrait par exemple poser d'autres questions. Quel cadre on veut pour ce type d'usage ? Par exemple, dans la rue ou au volant, on l'a vu, même si c'est des vidéos un peu fake. Ou alors, comment est-ce que les données vont être récoltées, traitées, etc. Parce que le casque, faut le rappeler, c'est quand même 12 caméras et 6 micros quand vous le portez. Ça, c'est vraiment pas rien. On peut aussi se demander comment cette technologie, comme le smartphone, va impacter notre perception du réel ou même notre relation avec les gens autour de nous, puisqu'il s'agit d'une expérience a priori assez solitaire. Hein. Puis en plus, on ne voit pas vraiment le réel, on voit ce que les caméras filment et nous renvoient. Et on peut aussi questionner, comme l'a fait Lucie Ronfaux dans sa newsletter Règle 30, l'usage que les femmes pourraient en faire, parce qu'elle a dit que déjà dans la rue, déjà être dans la rue pour les femmes, c'est une expérience angoissante. Alors en plus, avec un casque qui limite légèrement la vision et potentiellement face à des hommes qui filment en permanence ce qu'ils ont autour de vous, ça peut devenir une expérience vraiment peut-être même dangereuse, en fait. Donc je pense que plutôt que questionner la technologie, il faut questionner l'usage. Et peut-être que vous en parlerez avec votre invité juste après, je crois. De mon côté, je vais retourner regarder un épisode des Simpsons. Peut-être qu'ils ont prédit un petit CDI pour moi à l'avenir, on va voir. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine.
Des applaudissements pour Vincent, s'il vous plaît. Est-ce que ça vous hype autour de la table, la Vision Pro ?
Non,
Claire.
J'avoue que non. Mais je fais une thèse sur la catastrophe écologique, etc.
Il y a de ça. Poulpe.
Le côté gadget, il est hyper séduisant, mais après, je pense que faut un petit peu attendre là, voir. De toute façon, dans un an, on aura l'Apple Vision 2. Qui sera peut-être moins cher, problématique, on ne sait pas, mais je pense que là, il faut un petit peu... Les Américains sont quand même une très bonne publicité pour ce qui ne va pas dans le monde, et donc attendons de voir un peu comment se déroule cette pub pendant un an avec l'Apple Vision Pro et voyons ce qu'il en ressort, quoi.
Les amis, on a décidément encore un invité de la semaine, vous avez vu, elle est riche cette émission, je suis très content. On accueille... Avant de l'applaudir, on va accueillir Nicolas Lelouch, qui est rédacteur, qui vient du site Numérama, et qui revient tout juste de New York. Mais il n'est pas tout seul. Applaudissez-le, on accueille Nicolas, s'il vous plaît. Et Nicolas n'est pas venu tout seul.
Je vous ai ramené un jouet qui coûte cher.
Je suis
un peu ému parce que j'ai vu ta vidéo.
C'est vrai ?
Ouais, je suis content de te voir en vrai.
J'ai plein de vidéos de toi, donc je suis content de
voir. Moi, c'est moins bien que toi. Mais je t'ai vu le test et tout, quoi.
Écoute.
Mec, c'est trop
bizarre. C'est backseat, les gars.
Je t'ai vu à New York
le week-end dernier.
Mais ouais, putain, je suis en plein jet lag, là.
Moi donc.
Bienvenue, Nicolas.
Merci.
Merci d'être venu.
Je vais me connecter.
Merci d'être là. Connecte-toi. Tu es venu avec.
Il y a 4000 balles qui viennent d'arriver sur le plateau de backseat.
Comme on
dit. Le budget là.
Comme on dit dans le jargon, Nicolas a provoqué la table d'en face. Rêve que j'ai tout seul. Ok, no soucis. Je me suis senti très très seul sur cette séquence. Comment ça va, Nicolas ?
Ça va très bien.
De retour donc de New York ?
Oui, avec beaucoup d'expérience en réalité virtuelle ces derniers jours.
Ok.
Je sais pas si mes yeux vont s'en remettre.
Mais ouais. T'as pas la petite trace normalement ?
Je vais le mettre dans quelques minutes et là, je vais l'avoir.
Okay. Qu'est-ce que c'est que ce casque alors ?
Ce casque, le pari marketing d'Apple est de présenter ça comme un ordinateur.
Ok.
Est-ce que c'est un ordinateur aujourd'hui ? Je ne pense pas. On en est loin. Comme vous l'avez souligné dans votre chronique juste avant, c'est un produit qui est encore en première version. Ça n'excuse pas tout parce qu'il y a plein de problèmes, notamment sur l'optique, qui doivent encore être réglés. Il y a plein de questions qui se posent aussi bien sociétalement que d'un point de vue médical. Sur les yeux, on va en reparler sans doute, mais c'est inédit d'avoir des écrans aussi près avec autant de pixels, être autant ébloui en permanence. Et l'idée avec Apple, c'est non pas que ça va remplacer le téléphone. Je pense que ça, c'est une erreur due justement aux vidéos qu'on a vues sur les réseaux sociaux de gens qui se baladent dans la rue avec. C'est pas un produit qui va être porté dans la rue. C'est pas fait pour. Quand on le porte, d'ailleurs, les gens font semblant de l'utiliser. Hein. Ils ne voient rien quand ils marchent. Hein. Ils marchent, ils passent à travers une fenêtre. Et après, ils ne font que voir le monde, mais ils n'ont pas accès à leurs applications. Par contre, c'est un produit qu'Apple imagine comme susceptible de remplacer nos ordinateurs ou de remplacer nos téléviseurs. Et sur ce point-là, je vais peut-être vous surprendre, mais je pense qu'ils sont peut-être dans la vérité et que ça va peut-être se passer.
Tu peux le tester là
on
avec nous.
On peut le faire, ouais. Okay. Alors je vais le mettre. Il va falloir que vous me laissiez quelques secondes pour connecter l'écran à mon ordinateur pour que vous voyez.
Il faut booter Windows. Okay.
Vous allez voir ce que ça donne. Ouais, le temps de booter Windows.
Le temps que tu mettes, ton casque. Oui, donc là depuis une semaine, ça ne s'arrête pas.
Ah oui.
On a vu plein de papiers dans Numérama. Moi, j'ai vu un créateur de contenu que j'aime tant, Léo Duff, qui est venu aussi tester le casque. Et on peut aussi dire que avec Numérama, vous faites tester le casque à certains de vos abonnés, puisqu'on peut s'abonner d'ailleurs à Numérama. Je l'ignorais, je le sais maintenant. Ok. Donc
voilà
là,
vision actuelle.
D'accord, donc là,
alors,
t'es en train
sais,
de voir
c'est
ça.
Bizarre. Hein.
Alors, en plus, c'est très bizarre parce qu'il y a... il y a l'écran du retour derrière, donc c'est encore plus bizarre pour toi.
Ouais,
okay.
Alors, je vais essayer de cacher cet écran pour que vous évitiez de le voir.
Ouais, c'est surtout mon écran derrière moi qui... Ok, d'accord. Ok, waouh, c'est très bizarre.
C'est bizarre.
À quoi ça sert, dis-moi.
Déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que moi, je vous vois complètement normalement. Là, j'ai caché la vue des icônes. Et c'est ça, en fait, qui est un petit peu inédit avec ce produit et qui laisse penser qu'Apple est peut-être en train de faire une vraie avancée sur cette informatique spatiale, comme ils l'appellent. C'est que quand on porte le truc, on voit les gens normalement. Vous voyez même des yeux.
Oui, oui.
Je pense que je ressemble absolument à rien.
Mais c'est très... Conscient. Ça me haïe.
Ça te va très
bien. C'est un peu casque de ski. Lunettes de ski, ouais, quoi.
Un peu lunettes de ski. D'ailleurs, quand on l'enlève, on a vraiment la trace limite de bronzage. C'est la même chose.
Juste te rassure, t'étais tout aussi frais que tout à l'heure sans le casque.
Bah merci, voilà. Ça me fait plaisir. Voilà.
Mais c'est très bizarre.
Je suis moins d'accord.
Non, mais il faut s'y faire. Après, voilà, je pense que c'est un produit...
À quoi ça sert, du moins?
Alors, à quoi ça sert? Je vais faire quelques démos en direct. J'ai un petit bouton ici, et quand j'appuie dessus, ça va vous rappeler les icônes de l'iPhone. Et c'est la première fois qu'on a un appareil qui se contrôle avec les yeux. Donc, en fait... Au lieu, ma main ne va servir qu'à valider. Si je veux regarder une icône, je vais regarder Safari, je vais regarder Photo, je vais regarder à gauche la petite montagne. En fait, ça va automatiquement rentrer en surbrillance parce que ça repère que je suis en train de les regarder. Et par exemple, je vais regarder Safari, je vais l'ouvrir en bougeant mon pouce et mon index. Okay. Et là, j'ai une page web. Et en fait, l'idée, c'est que je regarde la barre ici. Et si je veux mettre la page web ici pour travailler avec mon clavier, je peux le faire.
Ok, tu peux parler avec moi.
Je
donc
peux
là,
te parler en ayant mon ordinateur,
ta page
mais
je n'ai
pas besoin de ramener mon écran d'ordinateur. Okay. Si j'ai envie de regarder une vidéo, bah, je peux repousser ça plus loin dans le studio. Mm-hmm. Je peux regarder la fenêtre et l'agrandir. Et du coup, j'ai une page web géante qui, évidemment, n'est pas équivalente à ce que vous pouvez avoir avec une télévision.
Je peux poser des questions hyper bêtes, mais imagine, là, tu vas couper des légumes, car tu es végétarien.
Ouais, je suis végétarien.
Tu te coupes des légumes et tu te coupes le WAD.
Ouais.
Tu te mets un gros pansement.
Ouais.
T'es dans la merde après pour
Il me reste l'autre main. Mais
Non mais sans déconner parce que j'ai vu que c'était tu devais.
C'est une bonne question. Alors je pense que si c'est juste une coupure, ça devrait aller.
Non mais si t'as les gros pansements de merde, tu vois.
Non, je pense pas. Je pense que ça va fonctionner. Ça détecte plus le geste finalement que la main. Okay. Ça peut marcher. D'ailleurs, si tu veux me faire une blague, si tu veux pourrir ma démo avec ta main, tu peux interagir avec.
Ah moi, je peux le faire.
Ouais, tu dois pouvoir. Tu vois, je regarde un article et que tu fais le pouce index, je pense que tu vas le sélectionner. Bah, ça le fait pas.
Non,
mais normalement,
fait pas,
ça le fait.
Je suis derrière.
Mais typiquement, là, tu pourrais être au bureau à Numérama et avoir une page avec Twitch et Backseat, évidemment.
Bah, je pourrais, ouais. On pourrait.
Tu pourrais...
Bah, si je voulais revoir les commentaires en direct en vous regardant, je pourrais parfaitement faire ça. Je sais pas si je suis à côté, mais.
Ok. Je précise que ce n'est pas sponsorisé par Apple et qu'on peut totalement critiquer le produit. Ouais. Hein, important
de
le dire.
Ah oui, on va même le faire.
Ah oui, d'accord. Allez, c'est parti. Nicolas, je t'écoute.
Bah, en fait. Je teste des produits depuis longtemps. Hein. Je suis en Elistec depuis longtemps. Je suis à Numérama depuis 2 ans maintenant. Mais avant, je testais déjà des choses. Et généralement, quand tu testes un produit, la tech, c'est à la fois un milieu fascinant et à la fois un des milieux les plus chiants du monde parce que tu sais en avance ce que tu vas dire sur le truc. Quand t'as un nouvel iPhone qui sort, tu sais exactement ce qui va être bien, ce qui va être pas bien parce que tu connais suffisamment le produit et la marque pour savoir ce qui va être intéressant. Là,
c'est pas très pro, mais je...
Tu me prends en photo. Bah, on peut se prendre un selfie après.
Fais comme, si
comme si t'étais pas là. Avec le Vision Pro, ce qui est intéressant, c'est que je partais avec plein d'a priori sur le produit, sur le concept. Je pense que vous avez les mêmes, vous vous dites que ça sert à rien, que c'est juste des écrans qui flottent de partout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'utilisation, je trouve que c'est beaucoup plus utile que ce que j'imaginais. Par contre, ce qui m'étonne, c'est hyper troublant. Hein. Tu sais, sur la 3D...
ton œil, j'ai chopé ton œil.
Mais par contre, ce que j'ai remarqué, Et ça va un peu dans le sens de ce que disent certains créateurs de contenu, mais je ne vais pas les rejoindre sur un truc, parce qu'il y a une phrase qui est pas mal revenue, c'est que le premier, on a hâte de voir la suite. Ouais. Moi, je ne pense pas que ce soit la bonne manière de raisonner, surtout sur un produit à 4000 euros. Je pense qu'il faut juger le produit en l'état. C'est bien d'imaginer à quoi va ressembler le futur avec cette technologie, mais il faut aussi voir ce qu'on propose actuellement. En fait, actuellement, il y a plein de limites technologiques qui font que c'est compliqué d'imaginer qu'on puisse le porter toute la journée. Moi, là, j'ai 3-4 heures par jour sur la tête pour travailler en ce moment. Je sais que je ne le ferai plus une fois que j'aurai sorti mon test du produit, parce que c'est lourd, parce que le champ de vision, il est rétréci. C'est-à-dire que là, je vous vois super bien, mais j'ai quand même un halo noir autour de mon visage. Et ensuite, j'ai découvert un phénomène que je trouve super intéressant qui s'appelle, alors j'ai le nom exactement si vous voulez, j'ai le Wikipédia qui est ouvert là, on peut même l'ouvrir, ça s'appelle le Vergence Accommodation. Donc regardez, je vais faire un truc super cool, je vais filmer avec mes deux mains pour vous montrer ça. En fait, ce qui se passe avec un casque de réalité virtuelle, c'est que vous avez un écran fixe en permanence devant les yeux, ce qui évidemment peut faire mal aux yeux et fatiguer sur le long terme, mais qui peut surtout révéler des problèmes de vue qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai toujours eu une super vue, je ne porte pas de lunettes. Mais ce qui se passe, c'est que mes yeux sont absolument incapables de faire la mise au point sur ce que je vois de près. Donc là, mes mains sont floues, alors que je vois net dans la vraie vie. Parce qu'en fait, mes pupilles ne changent jamais de taille quand j'ai le casque sur la tête. Okay. Complètement piégé par l'écran. Donc c'est la preuve que ce rêve d'Apple de remplacer les écrans par des écrans virtuels qui peuvent être créés en illimité. Je pourrais mettre 50 écrans sur la table. Si je veux regarder, je peux attraper la fenêtre et je peux naviguer avec elle comme si c'était un iPad. C'est cool, mais on n'y est pas encore. Mmh. Et ça sera intéressant de voir dans quelques années comment ils vont s'en sortir.
Tu arrives,
T'as réussi à faire quelque chose là ?
Je crois que ma main est passée devant.
On a des petits retours dans le chat. Le chat n'est pas hypé, on va se dire les choses. On nous parle aussi d'environnement et c'est peut-être
Est très sympa depuis le début.
Le chat est sympa. On va un petit peu parler de ce que ça dit un peu ce casque là de la société. Dis-nous Poulpe.
Pardon, t'as testé tous les trucs parce que moi j'ai vu des vidéos incroyables de tu sais les deepfakes sur la gueule et tout. T'as fait ça?
Alors ça c'est fake aussi. En fait, il y a plein de contenus en ligne que ce soit les gens qui marchent, les deepfakes ça n'existe pas. Après t'as pas mal d'applications hein, que ce soit les deux usages qui pour moi sont intéressants, c'est pour regarder une vidéo, pour vraiment t'immerger sur un écran géant qui n'existe pas sur une télé. Et vraiment, croyez-moi, c'est bizarre comme ça, mais on voit vraiment aucun pixel. Il n'y a pas de différence quand je regarde un écran et quand je vous regarde, la qualité est la même.
T'as testé le truc, c'est l'appli où tu peux changer les parois du mur et mettre vue sur la mer.
Tu as des portails qui sont possibles, oui.
Tu colles sur les murs de chez toi d'autres textures.
En fait, il y a aussi un truc. Je vais te montrer directement. En fait, ce que tu peux faire pour travailler
rapidement, Nicolas, si tu peux, je suis désolé.
Sur les environnements, on va prendre ce paysage-là. En fait, je peux être à moitié sur l'environnement, parce que si je me retourne et que je te regarde, je vais te voir. Et ça va permettre en fait de pouvoir, se détendre. Je ne suis pas sûr que ce soit la culture du produit. Mais l'idée, c'est qu'on puisse faire...
C'était l'équipe de Baxi. c'est ouf, la réalité virtuelle, c'est incroyable.
On va essayer un petit peu de se poser la question de ce que ça dit un peu de la société. Antoine ?
Mais pour moi, il y a tous les mots de l'économie de marché qui sont représentés dans un masque de ski qui brille finalement. C'est que... parce que... En fait, ça montre bien que l'économie de l'offre, c'est-à-dire qu'en gros, on produit des produits et s'il y a une demande de la population, ça marche et du coup, c'est bien comme ça. Ça me perturbe vraiment de te voir avec ça.
Je sais, j'hésite à l'enlever pour continuer cette conversation. Je me dis que ça vous de voir ce que vous
préférez. Tu peux l'enlever,
Allez, j'ai pas envie que tu te fasses mal aux yeux. Un vrai visage, ça sera plus sympa.
C'est pas parce qu'on sait faire quelque chose de technologique que ça sert à quelque chose et qu'il faut le faire. Et on devrait peut-être prendre le problème par le bout inverse, et c'est rejoint ce que tu disais Claire tout à l'heure, c'est qu'on est quand même en train de vivre une catastrophe climatique, on est en train de se poser des questions sur l'avenir de la planète, et est-ce qu'on a vraiment besoin de ça, et est-ce que toute cette technologie, elle devrait être mise en premier lieu dans ce type de produit plutôt que dans d'autres sphères de la société où ça serait quand même bien plus utile d'avoir toute cette innovation, cet argent et cette intelligence, je suis pas persuadé.
Tu viens bien de me calmer la gueule. j'ai vraiment plus du tout envie de l'acheter, quoi.
Un mot, Nicolas ?
Je veux rappeler une chose, c'est que le succès n'est pas garanti et que la force d'Apple ces dernières années a été de créer des besoins, que ce soit sur le smartphone, les tablettes, les montres connectées, les AirPods, on en a parlé. Ils savent créer des besoins là où, avant de voir le produit, on n'a pas envie de l'utiliser. Maintenant, moi, je pense qu'on est, avec ce lancement, sur ce qui est de plus risqué pour eux dans leur histoire. Ce n'est pas un produit facile à vendre, il y a plein de questions sociale, sociétale, se balader dans la rue avec, on parlait de la question des femmes. Nous, on s'est rendu compte sur Numérama qu'il n'y a quasiment que des hommes qui s'intéressent à ce produit.
Ah,
il y a peu de femmes, finalement, qui ont envie d'essayer le Vision Pro. Donc ça veut dire aussi beaucoup de choses sur à qui se destine ce produit et la manière dont Apple prend un risque en faisant un produit de niche, là où ils ont toujours fait des produits qui ont réussi à devenir des produits mainstream. Maintenant, ils ont réussi dans le passé à rendre des choses qu'on pensait inutiles, indispensables. Est-ce qu'ils peuvent de nouveau le réussir ? J'en sais rien, mais il ne faut pas nier cette possibilité. Il y a des chances que ça devienne les remplaçants des télés et des écrans.
Claire ?
Ouais, moi ce que je vois autour de moi, c'est aussi une tendance à questionner la place des écrans dans nos vies, tout simplement, essayer de réduire, essayer de se reposer en s'en éloignant.
Gabriel Attal.
Et est-ce que... Pitié. Non, mais et du coup, est-ce que bon, c'est peut-être un microphénomène sociétal, mais il y a quand même cette tendance de fond à avoir des questionnements sur ce genre de produit. Et du coup, est-ce qu'on atteint le bout de cette espèce de course à l'innovation, de la surtechnologie, ou est-ce que selon toi, il y a des chances de réussite du produit et qu'ils continuent à le développer justement parce qu'ils vont réussir à créer le besoin?
Je pense qu'ils ont des chances sérieuses de réussite. L'engouement aux États-Unis à la suite du lancement, ça dépasse tout ce que j'imaginais de possible. Pourtant, on sait que le public américain, notamment les jeunes, la génération TikTok, est hyper intéressé par ce type d'innovation technologique qui peut s'apparenter à du gadget. Mais la manière dont ça a été repris dans les médias, à la manière dont toutes les vidéos sont mises à cartonner sur ce sujet, est la preuve qu'il y a vraiment un intérêt là-dessus. Donc, moi, je pense que le temps que les consommateurs ont l'envie d'investir dans des produits comme ça, il n'y aura pas de limite et les marques continueront à aller plus loin. Par contre, sur la question des écrans, il y a un truc que je trouve assez ironique, c'est que quand Apple a annoncé ce casque en juin, une demi-heure avant, dans la même présentation, ils annonçaient une fonction sur iPhone pour nous dire quand on mettait le téléphone trop près des yeux. Et pour nous dire de penser à baisser le téléphone vraiment une demi-heure avant. Donc, je comprends qu'ils fassent attention, justement, qu'ils prennent en compte ces thématiques. Mais le fait d'annoncer un produit avec un casque, certes, qui a le meilleur écran du monde, c'est sans doute l'écran avec la meilleure densité de pixels de la planète. Il y a 50 pixels de Vision Pro dans un seul pixel d'iPhone. Alors déjà, les pixels d'iPhone sont invisibles. Donc, ce qu'ils ont réussi à faire, technologiquement, c'est incroyable. Mais... sur les écrans, clairement, il y a un problème. Sur les enfants, il y a un problème. Le fameux problème optique dont je vous parlais, le vergence accommodation, toutes les études disent qu'il n'est pas forcément dangereux sur le long terme sur l'adulte, mais que sur les enfants de moins de 6 ans, le fait de développer ce phénomène-là peut avoir un impact. Et combien de temps avant que des parents laissent leurs enfants utiliser ce produit pour se divertir? Et ça crée évidemment énormément d'enjeux sociétaux sur comment on va faire pour réguler ça. Et en même temps, c'est comme disait un ophtalmo que j'ai interviewé hier, ça ne sert à rien de lutter contre ces technologies et de dire aux gens qu'il ne faut pas les mettre parce que les gens ont envie de ça, ils ont envie de se divertir. Et vous aurez beau leur dire en permanence que les écrans sont dangereux pour leurs yeux, tant qu'ils ont envie de les utiliser, ils les utiliseront. Donc ça crée clairement des problématiques, mais il faut vivre avec le fait que ces trucs existent et prendre en compte que maintenant c'est une réalité.
Sacha, une question.
Tu disais tout à l'heure que Apple était un créateur de besoins. Mm-hmm. Est-ce que vous, journaliste tech, en faisant ce que vous faites, en allant à New York, invité par Apple, en ramenant le casque...
Pas invité par Apple. Non, ils ont rien géré avec l'Europe.
Et le casque, vous l'avez payé ?
On l'a acheté.
Ok.
Ouais, ouais. Mais ça arrive, en toute transparence, qu'il y ait des événements. En tant que journaliste tech, ça arrive qu'il y ait des événements avec des marques, en toute transparence. Maintenant, là, dans le cadre de ce lancement, on y allait, nous, pour rencontrer les gens, justement, pour avoir plus de liberté.
Ok.
Et ramener un produit qui n'est pas dispo en Europe.
Mais est-ce que vous n'avez pas aussi l'impression, du coup, d'être les passeurs de plats de ces créateurs d'envie, finalement ?
Forcément, parce que forcément que des gens vont voir nos contenus et avoir envie de les acheter. Maintenant, notre rôle de journaliste, c'est aussi de s'intéresser à ces tendances-là. On ne peut pas fermer les yeux sur l'existence de ce produit, le laisser à des créateurs de contenu américains qui souvent sont sélectionnés parce qu'on sait qu'ils vont être dithyrambiques ou parce qu'ils n'ont pas de comparaison derrière. Et notre rôle de journaliste, c'est à la fois de montrer aux gens les usages cool, s'intéresser à ce qui est bien et comment ce produit pourrait avoir du positif, mais aussi justement aller faire ce travail d'aller voir des ophtalmos, d'aller s'interroger sur les conséquences qu'on peut avoir avec la société, sur les hommes, sur les femmes. Et je pense que si nous, on ne le fait pas, d'autres le feront et ils ne le font pas comme nous, on a envie
moins
de
bien.
Le faire. Ouais. C'est ce que je me dis. Donc nous, on avait envie de ne pas laisser la presse française et les Français en général se contenter de regarder des vidéos de gros comptes américains et de pouvoir faire le travail en France, de s'intéresser à nos spécificités. Par exemple, Un exemple tout bête, Apple vend des verres de correction pour ce produit. Donc Apple devient un prescripteur de lunettes aux États-Unis.
C'est une bonne vanne, hein,
sur lunettes. Non, mais c'est, sur la, c'est une bonne vanne, mais c'est surtout illégal en France. Ouais. En France, la seule personne qui peut vendre des verres de correction, c'est un opticien. Donc ça veut dire que le jour où ce truc arrive en France, Apple va devoir s'allier à Alain Flelou, Optique 2000, pour vendre le casque. Donc ça, ça crée plein d'enjeux qui ne sont pas les mêmes aux États-Unis et en France. Et c'est notre responsabilité en tant que média qui veut être référence sur la tech, sur la société, d'aller, d'aller sur un lancement aussi important que celui-là.
Un test qu'on retrouve bientôt sur Numérama.
Semaine prochaine, sur YouTube et sur numerama.com. Okay. Et plein de contenu déjà dispo sur le site et en vidéo.
Et il y a d'autres sujets que Vision Pro, évidemment, sur Numérama.
Évidemment, d'autres sujets. On parle d'intelligence artificielle, on vous parle de régulation européenne, de plein de choses.
Merci beaucoup, Nicolas, d'être venu.
Merci.
On va se quitter, les amis. Poulpe, on te retrouve donc sur scène. On l'a
demain,
dit.
Demain soir.
Demain soir. On remet l'affiche, s'il vous plaît. Merci, la régie.
Demain soir, arrive tôt. Et après. La semaine prochaine à Brest, et après, j'arrive pas à savoir. Il y a d'autres dates.
Mais on regardera. Y a Toast, toujours.
Ouais, jeudi... Attends, bah du coup, Brest... Ah oui, non, c'est ça. C'est, moi, c'est le 15, je fais Toast avec Eddy Depréto chez moi. Et le 16, je suis à Brest. Faudrait que je fasse mon sac pendant Toast, parce que vu que je pars à Brest le lendemain... Enfin bref, c'est...
Ouais, c'est une grosse galère.
C'est de l'intendance.
Et la prochaine saison de Top Gear ?
Top Gear, j'ai pas le droit de le dire, mais ça sort en mars.
Ok, c'est bien. Merci. T'avais vraiment pas le droit de le dire.
J'ai gardé le secret.
Merci d'être venu, les copains. Je remercie ma bande de chroniqueurs. Claire, merci beaucoup. On te retrouve où ?
En bibliothèque. C'est la même chose toutes les semaines. En bibliothèque.
La thèse, toujours la thèse. Tu sais que c'est mon running gag préféré, hein, vraiment. C'est la thèse, toujours la thèse.
Okay. Oui, dans un an, peut-être, ce sera terminé.
Courage. Antoine, on te retrouve où ? Il y a la note de la Fondation Jean Jaurès, on en a parlé
oui,
tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Bah, oui, Fondation Jean Jaurès, sur les réseaux sociaux, tout ça, tout ça.
Et toi, la soutenance, bientôt ?
Dans un mois.
Et on te dit merde, ouais, encore une fois.
Ouais.
C'est où ?
À Grenoble, du coup, non.
Sacha, on te retrouve où ?
Sur France Info.
Sur France Info, eh oui. Et on met des cœurs sur tous nos chroniqueurs. On met des cœurs aussi sur Jean Massier, que j'embrasse très fort. Mon bro, j'ai tenté de tenir l'animation comme je pouvais. Les amis, on parle rapidement financement, parce que vous le voyez ici, là. On est à 92% avant le prochain Donation Goal, qui était un cours de boxe avec Latifa qu'on embrasse également. On y est presque, donc il faut y aller, les gars, c'est la dernière ligne droite. On remercie tous les donateurs, les donatrices qui permettent, qui rendent possible cette émission. On vous remercie sans rien. Sans vous, on ne ferait rien. Abonnez-vous sur YouTube, n'hésitez pas à laisser vos likes, vos commentaires. Et nous, on se retrouve très vite dans 2 semaines pour la prochaine émission. En attendant, comme je le dis à chaque fois, c'était Malek pour l'animation de Backseat. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et à très bientôt. Ciao.